catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse.
La catéchèse du Père Directeur.
Eh bien voilà, amis auditeurs, internautes, nous vous saluons de partout où vous nous recevez en ce net moment. Vous êtes à Kinshasa sur la 89.9, la même fréquence avec ce qui suit Radio Maria en ce net moment. À Bandunduville, Mbandaka, Congo-Brazzaville, nous saluons aussi nos internautes qui sont branchés sur notre site internet le 3. www.radiomaria.acd. Le Père Roger est avec nous dans ce studio. Nous disons bonjour Père et bon retour.
Merci beaucoup Cédric, hein, et merci à vous tous qui êtes à l'écoute de la fréquence maternelle en ce moment. Bonne fête de l'indépendance de notre pays.
Voilà, merci pareillement mon Père. C'est donc la catéchèse rétroactive. Nous allons revenir avec le texte liturgique du dimanche du Sacré-Cœur de Jésus célébré dans l'église universelle hier dimanche. Alors avec vous Père, nous allons prendre cette catéchèse sur le Sacré-Cœur de Jésus. Ce sera une catéchèse rétroactive. Mais bien avant cela, nous allons invoquer l'Esprit avant de commencer.
À tout de suite.
Et voilà, nous disons merci à l'Esprit Saint de Dieu, à mes auditeurs internautes. Nous sommes en direct. C'est donc l'émission La Catéchèse du Père Directeur. Alors, nous allons revenir sur le texte liturgique que l'Église, notre Mère, nous a proposé hier. C'était donc la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Père Roger, à vous le témoin.
Et merci beaucoup à notre frère Cédric hein, qui m'accompagne en ce moment. Cédric l'a annoncé, nous revenons sur le texte liturgique du dimanche passé, c'était hier. Hein. Le Sacré-Cœur de Jésus, cette fête est célébrée le vendredi en principe dans l'église. Hein. Mais dans notre pays, elle est célébrée le dimanche qui suit Corpus Domini, qui suit le dimanche de Corpus Domini, bien de la fête du Très-Saint-Sacrement. Parce que c'est un dimanche, au lieu de célébrer ça le vendredi, vous savez, chez nous, la liturgie est pleine de ferveur et la messe prend le temps qu'elle prend. Et donc, une solennité comme Sacré-Cœur ne pourrait être célébrée les jours ouvrables. Voilà pourquoi l'Église dans notre pays a proposé que l'on célèbre cette fête toujours les dimanches qui suivent Corpus Domini. Alors, les textes liturgiques hein, que l'Église nous a proposés à l'occasion de la fête du Sacré-Cœur sont ceux-ci. D'abord, la première lecture hein, qui est tirée de Ézéchiel. Ézéchiel 34, de 11 jusqu'à 16. Et puis, la deuxième lecture tirée de Romains 5, de 5b jusqu'à 11. Et l'Évangile selon Luc 1. Hein, au 15e chapitre, du 3e au 7e verset, et nous allons vous en proposer la lecture tout de suite. En ce temps-là, s'adressant aux pharisiens et aux scribes, Jésus disait cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses ennemis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car je retrouvais ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous l'ai dit, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'est converti, plus que 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Chers auditeurs, chers internautes, la fête du Sacré-Cœur de Jésus, et tout est parti au XVIe siècle. Hein, au XVIe siècle avec la religieuse, dont le nom est très fameux déjà, Marguerite Alacoque, qui avait reçu une révélation, selon laquelle, une révélation privée bien sûr, le Christ lui est apparu en 1673 et 1675, plusieurs apparitions d'ailleurs, où le Christ lui demande l'institution d'une fête en l'honneur du Sacré-Cœur, c'est-à-dire du cœur de Jésus. Et dans cette vision, le Christ lui a montré son cœur, un cœur qui a tant aimé le monde, mais un cœur qui souffre. Pourquoi ce cœur souffre? C'est parce qu'il y a beaucoup de blessures dont ce cœur est victime, hein, à travers le péché que nous commettons, le mal que nous faisons à notre prochain, eh bien ça blesse le cœur de Jésus. C'est ça ce que Jésus a dit à Marguerite Alacoque, Marguerite Marie Alacoque, et du coup, la nouvelle est arrivée auprès des autorités de l'Église, et puis 1765, le pape Clément XIII autorise déjà la fête du Sacré-Cœur, du moins en France, là où cette révélation est privée est partie. Et puis en 1856, donc disons pratiquement deux siècles plus tard, le pape Pie IX va proposer que cette fête soit célébrée dans toute l'Église. Et puis Léon XIII, en 1899, va ériger cette fête en solennité. Parce que dans l'Église, il y a mémoire, fête et solennité. Et quand on dit solennité, c'est une messe où il y a les Gloria et même les Credo aussi. Donc voilà un peu pour l'historique, hein, et même le sens de cette fête. Alors l'évangile que l'Église nous propose nous montre justement comment est-ce que le Christ nous aime. Il nous aime individuellement, particulièrement. Chacun de nous est objet de l'amour du Christ. Voilà pourquoi, sans brebis, il y a une qui est perdue et le Christ, le pasteur, va chercher la brebis perdue. On ne dit pas que c'est 10 brebis, 20 brebis, mais une seule. Il va chercher cela parce que le Christ aime chacun de nous individuellement. Chez lui, il n'y a pas de notion de majorité et minorité. Souvent, on est un peu piégé. Quand on dit, bon, voilà ce que dit la majorité, on s'aligne avec la majorité au détriment de la minorité. Ça, c'est la logique humaine. Chez le Christ, non. C'est tout le monde qui doit être bien. Ce n'est pas une question de sauver une majorité au détriment d'une minorité, mais tout le monde a besoin d'être aimé par Dieu, d'être secouru par Dieu. Et c'est ça l'essence de cette parabole, que le Christ cherche toute personne. Il veut que tout le monde soit sauvé. Même si vous êtes criminel, il y en a qui nous suivent dans des prisons, ils se sentent peut-être, du moins certains, se sentent peut-être très coupables à cause de ce qu'ils ont commis comme forfait. Eh bien, Dieu continue à vous aimer. Vous êtes comme cette brebis dont le Seigneur a besoin, même s'il en a déjà beaucoup, mais il a besoin de vous. Il voudrait que vous soyez sauvés, que vous soyez bien, vous êtes malade dans des hôpitaux, et tous ceux qui souffrent, chacun de nous, eh bien, le Christ nous aime d'un amour particulier. Et voilà pourquoi il a voulu, depuis le XVIIe siècle, qu'il y ait une fête en l'honneur de son cœur qui est sacré. Et déjà, dans l'évangile des Jean, Jean 19, 34, on voit les richesses du cœur de Dieu. Jésus meurt, on lui transperce les côtés par une lance. Depuis l'Antiquité chrétienne, les pères de l'Église perçoivent dans cet épisode, hein, les côtés transpercés de Jésus, ils perçoivent en cela le cœur de Jésus qui est blessé. Blessé par le mal que nous commettons, par le péché que nous commettons. Alors, la fête du Sacré-Cœur est aussi donc justement une fête des réparations. L'occasion de s'interroger sur les blessures que nous infligeons à Jésus. Chaque fois que nous nous comportons de façon peu chrétienne à l'égard de l'autre, eh bien, ça tombe aussi, ça a des répercussions dans le cœur de Jésus. Quand je blesse l'autre, je blesse le cœur de Jésus. Le mal que je fais à l'autre constitue une blessure de plus infligée au cœur de Jésus. Et donc, il faut y réfléchir et puis se convertir. Et de deux, c'est un cœur à imiter, c'est-à-dire l'amour du cœur de Jésus doit être source d'inspiration pour nous dans nos relations les uns avec les autres. Merci.
Et voilà, merci mon père pour cet exposé. Amis auditeurs internautes, nous sommes en direct, c'est donc l'émission La Catéchèse. Écrivez-nous au 081 99 66 0 98 081 99 66 0 98 pour les SMS normales ou WhatsApp. Et vous pouvez toujours nous appeler par ces mêmes numéros. Si vous nous suivez en dehors de nos frontières, écrivez-nous au plus 243 81 99 66 0 98. Nous allons retourner du côté de la technique pour avoir un petit coussin musical. Mais bien avant cela, nous allons prendre cette première question. Un auditeur qui nous écrit: bonjour mon père et bonjour Cédric pour cette catéchèse. Mon père, comment pouvez-vous nous expliquer dans cette société remplie des anti-valeurs et si vous êtes chrétien, vous démarquez par le bien, mais vous recevez toujours le mal de ce que vous faites comme bien. Est-ce, devons-nous continuer à faire le bien ou bien laisser? Merci, c'est Joyce qui nous écrivait depuis la paroisse Saint-Côme et Damien.
Bon, la réponse, hein, c'est Paul qui nous donne cela, et même Jésus d'une façon ou d'une autre. Voilà ce que Paul dit dans l'une de ses lettres. Hein. Donc ne vous lassez pas de faire le bien. Hein, c'est dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, donc ne vous lassez pas de faire le bien. C'est-à-dire, il y a déjà des gens qui se posaient cette question-là à l'époque. Ils se disaient, mais j'ai fait beaucoup de bien celui-là, mais voilà, en retour, je suis victime de son ingratitude. Et parfois même plus que l'ingratitude, c'est-à-dire, celui à qui vous avez fait du bien, eh bien, il vous rend le revers de la médaille, c'est-à-dire il fait le contraire de ce que vous auriez dû attendre de lui. Alors, voilà pourquoi Paul nous a prévenu, ne vous lassez pas de faire le bien. Vous pouvez aussi les lire dans Galates 6, 9. Hein. Paul le dit encore une fois de plus, ne vous lassez pas de faire le bien. C'est-à-dire que le bien peut aujourd'hui ne pas porter de fruits agréables, mais tôt ou tard, ça portera toujours de fruits agréables dans votre vie. Un bienfait n'est jamais perdu. Voilà ce qu'on dit. Quand Jésus dit « demeurez dans mon amour », qu'est-ce que ça veut dire? Ça paraît chez Saint Jean. Dans, chez Matthieu, Luc, Marc, c'est « tu aimeras le prochain comme toi-même ». Mais chez Jean, Jésus dit « demeurez dans mon amour ». Ça signifie que aimer, c'est facile, mais continuer à aimer, c'est difficile. Et demeurer dans l'amour, parfois ça devient impossible. Mais c'est toujours possible, parce que tout est possible pour ceux qui croient. Demeurer dans mon amour, ça veut dire que continuer à faire le bien sans relâche. Même si le bien que vous faites vous attire des ennuis, il faut continuer à faire du bien. C'est ça, demeurer dans mon amour.
Alors, c'est encore une question vraisemblable à celle qui venait d'être posée. C'est Gloria Boulou qui est en train de dire: est-ce que mon père, l'amour est synonyme d'être esclave ou bien de continuer à aimer même si l'on ne reçoit pas vraiment cette réciprocité en termes de ce que l'on fait ou de ce que l'on donne comme amour?
Oui, il faut continuer à aimer. Hein. Il faut continuer à aimer. Bon, parfois, l'amour vous crée des ennuis, mais il faut être prudent alors. Il faut aimer tout en demeurant prudent, mais on ne peut pas proposer à l'autre le contraire de l'amour, c'est-à-dire la haine. C'est impossible. Et alors, il y a une autre question qui apparaissait dans son intervention-là, où il parlait notamment de... Puis Cédric.
Elle disait s'il faudra être esclave, en fait.
Ah, esclave, voilà. Ouais. En fait, esclave signifie serviteur. Doulos en grec, ça signifie serviteur. Et Jésus se comportait comme un serviteur et parfois même au sens d'esclave. Nous sommes esclaves de l'amour. Pas esclaves de quelqu'un, mais de l'amour. L'amour que nous devons donner à l'autre. Vous n'êtes pas esclave de X ou Y, vous êtes esclave de l'amour, c'est-à-dire vous ne pouvez pas ne pas aimer.
Voilà. Ça paraît toujours aujourd'hui, mon père, il y a beaucoup de questions sur l'amour. Il y a encore une préoccupation qui n'est pas signée. Bonjour mon père, bonjour Cédric, merci pour cette catéchèse. Mon père, comment comprendre que le Christ qui se donne et il continue à se donner, transpercé de son cœur, mais il ne cesse pas de mêler les mondes. Si nous devons faire comme le Christ, Père, dites-nous concrètement comment agir concrètement pour faire valoir l'amour partout où nous sommes et surtout dans notre société où les intérêts passent dessus tout.
Oui, mais d'abord, ce n'est pas nous qui aimons, c'est le Christ qui aime à travers nous et en nous. Comme dira Paul dans 2 Galates de 19 à 20, « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » En fait, c'est ça. Lorsque quelqu'un aime jusqu'à se sacrifier pour les autres, pour son pays, pour l'Église, ça signifie que ce n'est pas lui, c'est le Christ. Et donc, tout celui qui est en communion avec le Christ, il peut aimer jusqu'au bout. Il peut aimer même dans un contexte où il y a des antivaleurs. Il peut rester fidèle à l'Évangile, Évangile de l'amour, de la vérité, de la justice. Il peut promouvoir des valeurs chrétiennes, même dans des contextes où règnent des antivaleurs, à condition qu'on soit en communion avec le Christ. Et ça, c'est un peu le secret des martyrs. Nous avons Floribert Buonaccioi dans notre pays. Il est allé jusqu'au bout. Ça veut dire que même s'il y a des antivaleurs dans notre pays, il y a aussi des valeurs. Et n'oublions pas que souvent, le mal fait beaucoup de bruit. On parle beaucoup de mal. Parce que, justement, c'est la propagande démoniaque. Satan voudrait montrer qu'il n'y a que le mal dans le monde. Il n'y a que le mal dans notre pays, en Afrique, dans le monde, dans la vie de chacun de nous. C'est pour nous décourager à faire le bien. Alors les gens vont dire, mais il y a tellement des antivaleurs que comment je veux faire le bien? Mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses. Vous avez l'exemple de Floribert Buonaccioi, et il y a beaucoup de Floribert dans notre société. Il y a aussi les biens. Alors soyons attentifs aux biens. Le bien qui se fait dans le monde, le bien que Dieu fait et le bien que certains de nous font. Parce que c'est important. Cela nous encouragera à aimer et à promouvoir des valeurs, même s'il y a aussi des antivaleurs.
Eh bien voilà, nous disons merci à Gérès Vangou de nous avoir proposé ces beaux cantiques qui cadrent même à ces thèmes ou à cette catéchèse d'aujourd'hui. C'est la catéchèse rétroactive. Nous revenons donc sur le texte liturgique du dimanche du Sacré Cœur de Jésus, célébré le vendredi dans l'Église universelle et ici à RDC, c'était hier. Nous sommes en direct sur les zones mariales, le Père Roger est là. Alors, nous continuons à recevoir vos questions et préoccupations au 081 99 66 098. Si vous êtes en dehors du pays, écrivez-nous au plus 243 81 99 66 098. Alors, nous prenons cette question. Bonjour mon père, bonjour Cédric, merci pour cette catéchèse mon père. Le Christ qui laisse ses beaucoup de brebis pour aller chercher une seule. Alors, dans notre société mon père et dans nos communautés beaucoup plus paroissiales, est-ce possible de pouvoir aussi se donner à pouvoir suivre ou aller à la rencontre de certains de nos frères et sœurs qui soit ont quitté l'Église catholique pour d'autres églises pour leur ramener dans l'Église? C'est Ginette depuis la paroisse Sainte-Trinité.
Merci à Ginette pour cette question qui est très très intéressante. C'est-à-dire que bon, ce bon pasteur qui perd une brebis et puis va la récupérer, est-ce que ça nous suggère aussi d'aller chercher nos frères et sœurs qui ont quitté l'Église catholique pour qu'ils reviennent dans l'Église catholique? Je dirais oui et non, c'est-à-dire qu'on peut proposer, mais sans s'imposer. L'Évangile se propose, mais ne s'impose pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut respecter les convictions religieuses de quelqu'un. On ne peut pas contraindre quelqu'un. Je prends un exemple. Il y en a qui étaient partis. Bon, nous proposons l'Évangile à travers Radio Maria, sans contraindre qui que ce soit à se convertir. Il y en a qui étaient partis, mais en écoutant certaines émissions sur Radio Maria, ils se sont dit, bon, mais j'étais parti parce que je me posais des questions sur certains aspects de la foi catholique, sur certaines pratiques catholiques. Mais là que j'ai eu l'éclairage à travers Radio Maria ou à travers d'autres médias catholiques, je rentre dans l'Église catholique. Ce sont des cas qui sont fréquents. À travers Radio Maria, certains qui étaient partis sont revenus, mais on ne leur a jamais demandé avec contrainte de revenir. Ça n'a jamais été une obligation. Mais on a proposé seulement l'Évangile, et puis qui veut, bon, il est libre. On ne peut pas imposer. Donc voilà, oui et non, c'est-à-dire que nous proposons l'Évangile, ceux qui s'ouvrent à cet Évangile et puis qui prennent l'une ou l'autre décision, bon, ils seront les bienvenus. Il y a d'autres qui suivent Radio Maria sans devenir catholiques. Mais nous leur souhaitons aussi beaucoup de bonnes choses là où ils sont, qui trouvent la grâce du salut là où ils sont. Et donc, c'est un peu cela, on n'oblige pas. L'Évangile, on le propose, mais on l'impose à personne.
Voilà, il y a un autre message. Bonjour mon père, bonjour Cédric, et bon retour parmi nous. C'est maman Annie Moukoua Carme, Saint-Hippolyte, Bandundouville.
Merci beaucoup à notre maman Carme de Saint-Hippolyte Bandundouville et félicitations au prêtre ordonné, au nouveau prêtre ordonné depuis hier dans la ville de Bandundu pour le compte du diocèse de Kenge par son excellence Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba.
Nous allons prendre ces messages vocaux de Joseph de Marie.
Bonjour mon frère Cédric, bonjour mon père et bon retour et merci beaucoup pour cette très belle catéchèse. Bon, moi, j'ai préparé ma catéchèse, mes questions sur Pierre et Paul, que l'on a fêté hier, les deux colonnes de l'Église. Mais bon, je suis surpris que vous puissiez nous parler sur le cœur de Jésus. Bon, quand cela ne tienne, voici ma question ou mes questions sur le cœur de Jésus. Mon père, est-ce que l'adoration de Jésus historique ou l'adoration de cœur de Jésus historique est légitime? Est-ce qu'il n'y a pas ici risque de tomber dans ce que je peux appeler dans une forme de cœurisme, le cœurisme, le cœurisme? Ma deuxième petite question. Lorsque nous disons cœur de Jésus, il s'agit ici d'un cœur de Jésus historique, c'est-à-dire son incarnation, ou il s'agit ici d'un cœur de Dieu? Alors, si c'est un cœur de Jésus historique, dont nous devons parler ici alors de l'amour humain, et s'il s'agit de cœur d'un Dieu, il s'agit là d'un amour divin. D'où ma question, quelle est la relation d'un amour humain et l'amour divin? Est-ce qu'il y a parallélisme entre ces deux amours? Et ma deuxième petite question, lorsque je place le cœur de Jésus au niveau culturel, au centre de toutes les cultures du monde, je me pose la question, comment le cœur de Jésus peut être adoré par les fidèles des cultures différentes, par exemple, Mulumba, Muswahili, Mukongo, etc., etc. Et pour finir, mon père, Marie-Marguerite à la coque, dans sa vision, voit le cœur de Jésus et Jésus lui révèle même, lui dit même de dessiner son cœur sur papier. Peut-on représenter vraiment le cœur de Jésus en termes de dessin lorsque je jette un coup d'œil sur le dessin évoqué par Marie-Marguerite à la coque? On peut dire que c'est vraiment ce cœur-là, le cœur de Jésus, et qu'on peut l'adorer, adorer ce cœur-là. Merci mon père, pour le moment, je m'arrête là.
Merci mon père Joseph de Marie.
Merci beaucoup à notre frère Joseph de Marie pour ces différentes questions qu'il nous pose. D'abord, nous avons célébré dans notre église ici en RDC hier la fête de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Parce qu'en principe, dans l'église, c'est célébré le vendredi. Alors là, on a célébré le Sacré-Cœur de Jésus le vendredi, le dimanche, on a célébré la solennité de Saint-Pierre et Paul. Chez nous, cette solennité de Saint-Pierre et Paul, c'est aujourd'hui, parce que hier c'était le Sacré-Cœur. Donc, ne vous en faites pas, apaisez-vous, parce que demain, ce sera une catéchèse sur la solennité d'aujourd'hui, Pierre et Paul. Donc aujourd'hui, lundi, on est revenu sur la solennité d'hier, Sacré-Cœur de Jésus, et demain, mardi, on reviendra sur la fête ou la solennité de Saint-Pierre et Paul. Donc les questions sur Pierre et Paul, vous pouvez les prévoir, vous pouvez les garder pour demain. Maintenant, venons-en aux questions posées par Joseph de Marie 3 ou 4. Hein. Mais en principe, il n'y a que deux réponses que je peux donner à toutes ces questions qui se recoupent. Hein. Les mêmes questions reformulées d'une façon ou d'une autre, reformulées autrement. L'eucharisme, bon, ça n'existe pas. En théologie, ça n'existe pas. Parce que le cœur dont on parle, et je crois que ça, c'est la première réponse que je donne. D'abord, quand on dit Sacré-Cœur de Jésus, que signifie cœur? Ça, c'est ce que je vais d'abord dire. Et la deuxième partie de ma réponse, ou deuxième réponse, c'est faut-il l'adorer? Alors, d'abord, le cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est pas la partie physiologique de notre corps. C'est pas ça. Le cœur, dans la Bible, signifie la dimension spirituelle de l'être humain. Comme l'âme, c'est la dimension immortelle, qui est aussi spirituelle, bien sûr, le cœur, c'est la dimension spirituelle. Et dans la dimension spirituelle de l'être humain, il y a sa relation avec Dieu, il y a aussi sa relation avec les autres, il y a les valeurs qu'il incarne dans cette dimension spirituelle. Il y a, si vous voulez, ce qu'on appelle la volonté, l'intelligence, tout est impliqué dans ce qu'on appelle cœur, c'est-à-dire la dimension spirituelle de l'être humain. Et donc, le cœur de Jésus, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le centre de la personnalité de Jésus. Ce qui est central chez Jésus, c'est quoi? C'est le cœur. Comme, en fait, là où est ton trésor, là sera ton cœur, comme dit Jésus dans l'Évangile, c'est-à-dire. La priorité des priorités dans ta vie, c'est quoi? C'est ça ton cœur. Et pour Jésus, son cœur n'a d'autre mot que l'amour. C'est ça. Quand on dit la fête du Sacré-Cœur, c'est la fête de l'amour. Alors maintenant, est-ce que faut-il adorer le Sacré-Cœur de Jésus, comme qui dirait l'amour de Jésus? L'amour dont fait preuve Jésus, faut-il adorer cela? C'est que Jésus a dit à Marguerite Marie à la coque que c'est plutôt d'imiter. Il présente son corps à Marguerite Marie, la religieuse, pour que nous puissions nous rendre compte des blessures, comment ce cœur est blessé. C'est-à-dire comment Jésus est blessé dans sa personne à cause de nos péchés. Et donc il faut la réparation. La conversion qui passe par la pénitence. Et de deux, il faut imiter ce corps-là. Donc plutôt qu'adorer, il faut imiter, c'est-à-dire imiter la mort de Jésus. Merci.
Voilà, on va prendre encore une autre question. Mais à mes auditeurs internautes, vous pouvez toutefois nous laisser vos questions ou préoccupations au 081 99 66 098. Bonjour mon père, bonjour Cédric. Pourquoi l'évangile du bon pasteur au lieu d'un évangile où l'on décrit l'immense amour de Jésus à la croix, par exemple, comment il a été dépouillé pour nous sauver? C'est Marius.
Comment Jésus a été dépouillé pour nous sauver? En fait, c'est... D'abord, le fait d'être dépouillé, je ne sais pas si ça renvoie à la croix, à la crucifixion. Évidemment, c'est ça. Quand on crucifiait les gens, on les dépouillait, n'est-ce pas? Mais le dépouillement de Jésus a surtout un sens plutôt spirituel, voire théologique. C'est ce qu'on appelle la kénose. Comme dit Paul en Philippiens 2, dont des natures humaines qu'il était, il a renoncé à tout ce qu'il avait comme privilège, tout en restant Dieu, bien sûr. Il s'est abaissé pour devenir homme comme nous en toutes choses, excepté les péchés. Il est allé jusqu'à mourir sur la croix. Donc, ça, c'est aimer jusqu'au bout. Ce dépouillement-là, cette kénose-là, a comme motivation l'amour de Jésus qui nous aime jusqu'au bout. Voilà pourquoi il accepte de passer par là. Et donc, le dépouillement de Jésus ne contredit pas son amour. L'amour et le dépouillement ne sont pas opposés, mais l'amour et le dépouillement, c'est-à-dire la kénose, vont de pair. Parce qu'il nous aime, il s'est fait homme, il est passé par la kénose, voilà pourquoi Dieu l'a élevé.
Voilà pourquoi Dieu l'a élevé. On va prendre encore cette réflexion. Bonjour mon père, bonjour Cédric, et bonne fête de l'indépendance. Mon père, Jésus doit rester devant, au milieu et derrière le troupeau pour voir le brebis perdu et le brebis fatigué. Si je fais le parallélisme du contenu de l'évangile et les démarches de la SENCO et de l'ECC, les contextes de notre pays, si comme le texte liturgique du Sacré-Cœur, donne une leçon que nous ignorons et de le mettre en pratique. Merci pour cette catéchèse, c'est Daniel Mbemba. C'est une réflexion.
Merci beaucoup. Bon, en fait, l'Église a toujours prôné ce qu'on peut appeler en politique. Je n'entrerai pas dans ces méandres-là. Bientôt, il y aura une émission où il y aura des spécialistes qui peuvent bien vous expliquer ces choses-là, c'est-à-dire le sens de l'engagement de l'Église sur ce terrain sociopolitique. Mais le dialogue inclusif, c'est ce que l'Église a toujours prôné. Et la parabole de Luc 15, c'est ça aussi. C'est l'inclusivité. Ne laissez personne de côté, ne négligez personne. Il faut prôner l'inclusivité parce que c'est à travers l'inclusivité que la paix sera véritable et durable. Et c'est la parabole de la brebis perdue. On va chercher cette brebis-là. C'est ça l'inclusivité.
Merci beaucoup, on prend cette préoccupation. Bonjour mon père, bonjour Cédric et bonne fête de l'indépendance. Alors mon père, 65 ans après et une coïncidence de cette catéchèse qui parle du cœur sacré de Jésus. Est-ce nous, Congolais et Congolaises, avons-nous un bon cœur? Voilà, la question n'est pas signée.
Oui et non. Oui et non, c'est-à-dire que nous avons des qualités, nous avons aussi des défauts. Et parmi nous, il y a le bleu, il y a l'ivraie, c'est-à-dire il y en a qui excellent dans un domaine ou dans l'autre, dans un sens ou dans l'autre. Il y en a qui sont vraiment exemplaires au sens de dévouement pour la patrie, dévouement pour les autres. Il y a d'autres aussi qui ne sont pas des modèles. Et donc, c'est mitigé, mais l'important, c'est de voir qu'est-ce que nous devons faire de mieux. Ne nous contentons pas de ce qui pourrait être acquis au sens positif. Il faut plutôt réfléchir et voir ce qu'on peut faire de mieux. Et je crois que dans ce domaine-là, nous avons vraiment un parcours à faire. Récemment à l'étranger, on était en train de partager un repas. Évidemment, le repas est toujours accompagné de quelque chose pour boire. Le directeur de Radio Maria Nigeria, le père Sylvanus, il est à Abuja, Radio Maria Abuja au Nigeria. Il me dit, grand frère, voilà, nous avons demandé, chacun a demandé ce qu'il voulait boire. On a amené ça dans des verres. On ne sait pas où est-ce qu'ils ont servi. On vous amène le verre et vous buvez. N'est-ce pas?
Ouais, ouais.
Qui a demandé la bière, on lui amène la bière dans un verre. Qui a demandé, c'est pas moi quoi, les jus, on lui amène dans un verre. On n'a pas vu la bouteille, on n'a pas vu quand on a ouvert. Ouais. Nous avons bu et puis bon, ça, c'est un problème. Est-ce que chez nous, à Kinshasa, aujourd'hui, en RDC, vous allez dans un bar, un restaurant, est-ce qu'on peut vous amener de la boisson comme cela? Bien dans le Maléwa que nous avons ici. Mmh. On veut voir comment on va ouvrir. On veut s'assurer que c'est hermétiquement fermé. Bon, ça nous fait réfléchir. Et lui, il a dit, voilà, ces gens ont quand même une autre mentalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du mal à quelqu'un à l'occasion de rien comme ça. Donc, on ne peut pas. C'est-à-dire le respect de la vie humaine est sacrée encore dans certaines sociétés. Et chez nous, bon c'est, je l'ai dit de façon anecdotique, n'est-ce pas?
Ouais.
Parce qu'à l'époque, ça se faisait aussi. Mais aujourd'hui, c'est de moins en moins. Chacun veut voir qu'on ouvre la bouteille, qu'on le serve. Et il y en a qui n'aiment même pas de verre, ils préfèrent la bouteille.
Ouais.
Mais à l'étranger, ces questions-là, en Europe, ça n'existe pas. Peut-être dans certains milieux, mais là où moi je vais souvent, ça n'existe pas. Que ce soit dans des couvents, dans la société en général, vous allez dans un restaurant, un bar, vous voulez une bière, on vous sert ça quelque part, vous ne savez pas où, on vous amène seulement le verre ou le vin, et puis vous prenez, ou le jus, vous prenez.
Voilà, on prend cette question. C'est vraiment, c'est très intéressant. Mon père, vous avez raison. Bonjour, cher journaliste Cédric et au père. Merci pour les enseignements du jour. Très super. Ma question est de savoir comment le pharisien et les scribes ont dit lorsque Jésus les a posés qui peut laisser ses 99 brebis pour une qui est perdue. L'amour de Jésus est inconditionnel. C'est Cyprien Toili depuis Bukavu.
Oui, merci beaucoup à notre frère depuis Bukavu. Hein. Effectivement, la question mérite d'être posée, c'est-à-dire quelle a été la réaction des scribes et des pharisiens en écoutant cette parabole-là. Évidemment, ils avaient une autre approche. Quelle était leur approche? Donc, pour eux, en fait, c'est pratiquement un dualisme social qu'ils ont créé, qu'ils ont érigé entre ceux qui ont cru et ceux qui se sont fait circoncire pour les hommes, bien, tous ceux qui ont rempli les formalités pour faire partie de la religion juive, pratiquant la religion juive, et puis ceux qui sont restés de l'autre côté, qu'ils appelaient des païens. Parce qu'en fait, dans la Bible, quand on dit païen, c'est-à-dire même vous et moi, nous sommes des païens. Donc les chrétiens sont considérés par des juifs comme des païens. Et donc il y a d'une part les juifs, et puis les païens, et puis c'est tout. Alors pour eux, ce sont les juifs qui seront sauvés. Ceux qui fréquentent la synagogue, le temple, tout ça. Les autres, tant pis pour eux. Alors Jésus vient avec une autre approche pastorale et dit, je veux que tout le monde soit sauvé. Et d'où c'est cette parabole où il y a une seule brebis sur 100 qui s'est perdue. Mais Jésus, les pasteurs de ses troupeaux, ses poumons se décarcassent pour aller chercher cette brebis perdue.
081-99-66-098. Nous allons prendre cette question. Bonjour ma radio, bonjour mon père et papa Cédric et bonne fête de l'indépendance. Voici ma question. Qu'est-ce que le Sacré-Cœur de Jésus a de grâce possible et lequel aspirant et lequel pouvons-nous tirer de ce grâce? C'est Joyce Kouloulou. Merci et bonne journée.
Bon, c'est la grâce de l'amour. Hein. Dans le Sacré-Cœur de Jésus, c'est résumé en un seul mot, c'est l'amour avec ses corollaires. Là où il y a l'amour, on cherche le bien de l'autre. Là où il y a l'amour, on pardonne. Là où il y a l'amour, on demande pardon. Là où il y a l'amour, les gens vivent en paix. Là où il y a l'amour, les gens pratiquent la justice. Là où il y a l'amour, les gens recherchent la vérité. Donc, c'est pratiquement l'amour avec ses différents, avec ses corollaires, comme j'ai dit. C'est ce qui constitue le Sacré-Cœur de Jésus. Fait le Sacré-Cœur de Jésus, pour être plus concret, parce que tout à l'heure, c'est aussi la question que Joseph de Marie posait, c'est l'ensemble des valeurs que Jésus incarne. Et ces valeurs se résument en un seul mot, l'amour. C'est ça, le Sacré-Cœur de Jésus.
Voilà, c'est l'amour qui résume le Sacré-Cœur de Jésus. Nous continuons à recevoir vos questions au 081 99 66 098 plus 243 81 99 66 098. Bonjour et vous êtes en direct sur les zones mariales.
Bonjour frère, bonjour mon père.
Bonjour.
Bonjour.
Na sepeli koyoka malubana dina pona ko répondre ende comme si tu oh amekai ko tuna. Ngai nazali mota katoliki te me nazala ka suva pona ko landa sien na yope e tirsa kanga mingi na makambo oyo olobaka yango pe na kenda to ko apprécier yango pona ko yeba yango te na izana batu susi pe balanda kadino se ba sepela kana ngo. Do ada na ngo d'accord ka sport na merci vraiment na matea nayo.
Voilà, il bon, est parti.
Souvent, ils n'aiment pas se présenter. C'est ça, hein, ouais. Bon, c'est, on respecte leur, leur option. Donc, c'est comme ça. C'est lui?
Je pense qu'il est revenu.
Il est revenu, d'accord. Ouais.
Oui, alors, allô?
Na bengi bino juste na plateau na niveau ya quartier Agumi, combo Alpha.
Ok, merci beaucoup, Ndeko Alpha.
Ok, merci, Ndeko Alpha. Agumi, c'est...
Le plateau...
Oui, oui. Bon, ça va. Doumi, ça peut être aussi Doumi devant nous. Il y a aussi Doumi par là.
Certainement.
Mais bon, peu importe. Hein, on sait que c'est notre frère Alpha. Bon, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des non-catholiques qui suivent cette radio. Nous ne demandons à personne de devenir catholique. Nous ne demandons à personne de devenir catholique. Nous demandons aux catholiques de se sentir raffermis, édifiés par ce que nous prêchons. Et à ceux qui ne sont pas catholiques, nous ne leur demandons pas de devenir catholiques. Mais s'ils veulent devenir catholiques, nous n'allons pas non plus refuser. En fait, c'est ça par rapport à la question qui était posée hein, sur Jésus, n'est-ce pas? Ce pasteur qui va à la recherche de la brebis perdue. Devons-nous aller chercher nos frères, partir pour les ramener dans l'Église catholique? Je dis oui et non. C'est-à-dire que nous proposons simplement l'Évangile. S'ils sont intéressés, ils reviennent. S'ils ne sont pas intéressés, nous n'allons pas leur imposer quoi que ce soit.
Voilà, c'est clair. On va prendre la question que j'étais en train de lire. Bonjour mon père, bonjour Cédric. Mon père, est-ce que dans une société comme la nôtre, remplie de chrétiens, tant catholiques, protestantes et de églises de réveil, mais nous avons l'impression que les choses ne semblent plus aller. Est-ce qu'il y a... Il y a carence de cœur, des hommes et des femmes, des bons cœurs, ou bien nous les faisons sciemment. Vos explications, mon père. Et s'il y a carence, que devons-nous faire? Et si nous les faisons sciemment, comment nous devons nous comporter? C'est Madame Juliette Mbayo depuis Saint-Léonard.
Merci beaucoup. Hein. Bon, en fait, comme je disais tout à l'heure, les valeurs, il y en a dans notre société. Il y a des valeurs. Quand je dis des valeurs, c'est qu'il y a des hommes et des femmes des valeurs. Parce que les valeurs sont toujours incarnées par des humains que nous sommes, vous et moi. Mais il y a aussi des pesanteurs, ce qu'on appelle anti-valeurs, qui nous attirent vers le bas, qui fait que, ou qui font que les pays ne décollent pas, les pays n'avancent pas. Les pesanteurs, c'est-à-dire ceux qui nous attirent vers le bas, il y en a aussi. Alors, je crois que l'avenir se joue au niveau... de ce discernement qu'il faut opérer, c'est que nous avons déjà comme acquis sur le plan vraiment au sens positif et puis ce qu'il faut améliorer. Et les pesanteurs, il y en a. Il y en a même beaucoup. Voilà pourquoi souvent, c'est comme si on veut décoller, mais il y a quelque chose qui vous attire vers le bas. On veut aller de l'avant, quelque chose vous retient, vous retire derrière. Et donc ça, c'est un peu notre société, notre pays. Et donc, le discernement voudrait qu'on voit quels sont nos atouts positivement et quels sont des pesanteurs qui nous empêchent d'aller de l'avant. Là, c'est vraiment c'est un discernement, une analyse à faire sans complaisance et je crois que c'est ce à quoi on va peut-être assister tout à l'heure. Mmh. Il y a cette émission, je vois qu'il y a déjà des invités qui arrivent, hein, des intervenants, des personnalités de ces pays. Hein, certains ont été ministres dans des gouvernements passés, il y a d'autres qui sont même des catholiques engagés en politique.
Des professeurs d'université.
Bon, ils seront là. On va laisser, c'est à eux, n'est-ce pas, de nous proposer ce genre d'analyse-là. Moi, je préfère prester dans un domaine où je semble, où semble-t-il, bon, je comprends des choses beaucoup mieux.
Voilà, merci beaucoup mon père. Nous allons prendre ces messages. Bonjour mon père, Est-ce que les images que nous voyons dans l'Église, entre autres de Jésus, nous renvoient-elles à sa vraie figure? Parce que je reçois souvent des critiques externes de la part de nos amis protestants. Merci mon père, c'est Josapha Moussingo, depuis la ville de Bounia, paroisse Notre-Dame de l'Annonciation. Merci de nous écrire depuis Bounia.
Merci beaucoup. Hein. Bon, il faut distinguer deux choses. Merci à notre frère hein, qui est à Bounia, qui nous suit à partir de là. Il faut distinguer d'abord l'iconographie chrétienne et puis les films modernes. Parce que dans les films modernes, en fait, les personnages sont des personnages vivants, comme vous et moi. On peut aussi vous prendre, on dit, on tourne un film sur Jésus, viens jouer le rôle de Jésus. Et donc, ça, c'est clair. Quand vous voyez un film, eh bien, les personnages qui sont là, à moins qu'on les ait un peu déformés, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut toujours le recréer un peu, changer certains aspects du visage ou du corps. Mais en général, dans des films, ce sont des personnages, sont des acteurs qu'on connaît. Alors, mais dans l'iconographie chrétienne, depuis l'Antiquité, les images de Jésus, c'est-à-dire ce qu'on trouve dans les fresques, hein, les images les plus anciennes, d'ailleurs, les fresques les plus anciennes, c'est déjà au 3e siècle. Et même 2e siècle, il y avait déjà des fresques. Alors, dans ces fresques-là, la figure de Jésus ne renvoie pas à un personnage historique. Non, parce que lui, il ne nous a pas laissé une photo de lui. Et donc, dans les fresques, le visage de Jésus ne se réfère pas au personnage historique, encore moins à lui-même Jésus, mais on veut peindre le visage, présenter la personne en tenant compte simplement de certaines valeurs. On dit que bon, il aimait l'amour, hein, c'est quelqu'un qui a aimé, quelqu'un qui a pratiqué la justice. Alors comment représenter une personne qui incarne ces valeurs-là? Voilà pourquoi bon, on aura dans l'iconographie, Jésus est très beau, Marie est très belle. Pourquoi? Est-ce qu'historiquement parlant, ils étaient beaux? Elle était belle, bon, je ne sais pas parce qu'il n'y avait pas de photo, mais la beauté de Marie, la beauté de Jésus dans l'iconographie, c'est tout simplement parce qu'ils incarnent des grandes valeurs, dont l'amour.
Et voilà, nous allons prendre un témoignage de Alain Fumunandu.
Bonjour mon père, bonjour Ndeko Cédric, et merci mon père pour cette belle catéchèse. Mon père, c'est justement pour ajouter une petite contribution par rapport à ce qui vient de se dire. Ben, j'ai écouté un frère qui a posé la question concernant ceux qui ont quitté l'Église et qui veulent retourner. Moi-même, Alain Fumunandu, je suis le témoin vivant de Radio Maria. En fait, moi, c'est en 2009 que j'avais quitté l'Église catholique. Je suis allé chez les témoins de Jéhovah. J'ai passé 12 ans chez les témoins de Jéhovah, donc j'étais devenu aussi le prédicateur en plein temps. Et en 2019, j'ai découvert la Radio Maria. Et lorsque j'ai découvert la Radio Maria, j'ai commencé à suivre la catéchèse. Et c'est la catéchèse du Père Directeur qui a transformé ma vie. Et du coup, j'ai compris que non, si j'avais quitté l'Église catholique, c'était par ignorance. Et moi-même, personne ne m'avait forcé. Moi-même, j'avais pris la décision courageuse de retourner dans l'Église catholique. Une fois retourné dans l'Église, j'ai été très bien accueilli dans la paroisse Sainte Famille et dans ma CVB Saint-Pierre, dans la confrérie des Amis de Radio Maria, raison pour laquelle jusqu'à présent, je suis toujours calme et personne ne m'avait forcé. Donc mon père, en fait, je profite de cette occasion pour aussi demander à nos frères et sœurs qui ont quitté l'Église comme moi et qui veulent retourner. Donc, chers frères et sœurs, n'hésitez pas. Personne ne va vous forcer de retourner. Mais moi, en tant que témoin vivant, je vous lance cet appel vraiment. Si vraiment votre conscience vous incite à retourner dans l'Église comme moi je l'avais fait, n'hésitez pas. Donc, une fois retourné dans l'Église catholique, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que nous, dans l'Église catholique, nous avons une très grande richesse qu'on ne peut trouver nulle part. Donc, vraiment, prochainement, je viendrai moi-même au micro pour les témoigner vraiment. Vu les temps, je conclue par là pour dire à nos frères et sœurs, qui suivent aussi la catéchèse du Père directeur et qui ont compris qu'ils ont quitté l'Église par ignorance. Donc, n'hésitez pas, faites comme moi, la porte vous est grandement ouverte. Merci beaucoup, c'est le frère Alain Foumounand.
Mon père, c'était Alain Foumounand, le promoteur Radio Maria Kinshasa.
C'est magnifique, hein? Bon, c'est un témoignage. Personnellement, je connais ça déjà parce qu'il m'en avait déjà parlé. Mais bon, il y a d'autres auditeurs, des auditeurs qui n'en étaient pas au courant. Voilà, ils viennent de découvrir qu'Alain Foumounand, c'est un ancien témoin de Jéhovah. Il était catholique. En 2009, il est parti chez nos frères et sœurs témoins de Jéhovah. En 2019, il a découvert Radio Maria. Et puis en 2021, il a décidé de revenir catholique après avoir suivi notamment les différentes catéchèses que nous proposons sur Radio Maria. Il revient dans l'église en 2021 et puis il est accueilli à Sainte Famille dans la confrérie des amis de Radio Maria. Et maintenant, il est promoteur de Radio Maria.
C'est ça.
Donc voilà comment Dieu prépare les choses. Mais on voit qu'Alain, il a appris un peu la pastorale, la méthode pastorale des témoins de Jéhovah, n'est-ce pas? Donc de maison en maison. Bon, bien que maintenant il est redevenu catholique, mais il aime le terrain. On voit que c'est souvent ça. Il va dans des paroisses rencontrer les confréries des amis de Radio Maria, ainsi de suite. Voilà, merci beaucoup à notre frère Alain Foumounand pour ce témoignage très, très, très édifiant.
Merci beaucoup Alain Foumounand, nous te saluons. Alors mon père, nous tendons déjà vers la fin de cette première partie. Ben, nous allons rapidement prendre cette question qui va nous aider à changer de registre. Voilà, bonjour mon père, bonjour Cédric, merci pour cette catéchèse. Ma question, dans quel contexte nous pouvons méditer et prendre l'évangile d'hier en rapport avec la vie d'aujourd'hui? Jésus nous a montré qu'il faut être miséricordieux et avoir un cœur pardonnable. Ça, c'est la toute première question. Nous autres, ici à Bukavu, nous subissons la situation très déplorable que Dieu nous en épargne de cette angoisse. Bonne fête de l'indépendance pour ceux ou celles qui sont dans la paix. C'est Cyprien, toi là, depuis Bukavu.
Et merci beaucoup à notre frère depuis Bukavu. Hein. Évidemment, là, c'est une question qui est très, très intéressante hein, par rapport au contexte de Bukavu, de Goma, qui sont des territoires où il y a des problèmes qu'on connaît, des territoires occupés. Alors, comment se comporter? Radio Maria, c'est une voix de la paix. C'est une voix céleste dans votre conscience, dans votre maison, une voix de la paix. Laissez-vous accompagner par cette radio. Dans l'immédiat, je crois qu'à court terme, notre pays a besoin de la culture de la non-violence. La paix va de pair avec l'amour et l'amour va de pair avec la non-violence. La fête du Sacré-Cœur, la fête de l'amour du cœur de Jésus nous rappelle tout cela. C'est-à-dire que le Christ nous aime, voilà pourquoi il nous donne la paix. Notre paix, c'est le Christ. Mais la paix n'est possible que s'il y a ce qu'on appelle la culture de la non-violence. Et la non-violence, ça veut dire ne pas rendre le mal pour le mal. Promouvoir le bien, s'aimer le bien là où l'autre sème le mal. Parce que même si l'autre est venu s'aimer le mal, vous dites, moi aussi je fais la même chose pour le punir, mais ce que tu sèmes comme mal se retournera contre toi. Le mal engendre la malédiction et le bien engendre la bénédiction. Et donc, ce que moi je peux demander à nos frères et sœurs de Goma, de Bukavu, c'est de semer le bien. Là où l'ennemi, là où d'autres personnes sèment le mal, la violence, tuerie, non-respect de la dignité humaine, mensonges et tout cela, des antivaleurs, s'aimer le bien, ne vous laissez pas piéger. Ne dites pas que il a fait ça, eh bien je rends aussi le mal pour le mal. Alors le mal que vous allez s'aimer engendrera la malédiction dans votre vie, dans votre famille, dans cette partie de notre pays. Mais si vous s'aimez le bien, vous dites que nous allons répondre au mal par le bien, à la violence par la non-violence, à la haine par l'amour, eh bien vous allez semer les biens. En semant les biens, vous allez récolter la bénédiction. Et les biens peuvent dévorer le mal. Il ne faudrait pas que ce soit le contraire. Le bien que vous faites doit finir par dissiper le mal, par dissoudre le mal, par dévorer le mal. Le bien que vous faites doit l'emporter, c'est l'évangile d'aujourd'hui, n'est-ce pas?
Oui, oui, justement.
Oui, Pierre, Jésus qui dit à Pierre, les puissances de la mort ne l'emporteront pas sur l'Église. J'ai beaucoup aimé, au début de son pontificat, le pape Léon XIV a dit, le mal ne l'emportera pas. Ne pensez pas que c'est le mal qui aura les derniers mots. Ne pensez pas que c'est la guerre qui aura les derniers mots, des tueries qui auront les derniers mots. Le mal ne l'emportera pas, a dit Jésus. Mais pour que cela soit vrai, nous devons semer le bien là où l'ennemi sème le mal. Semer le blé là où l'ennemi sème l'ivraie. Pour que même l'ennemi soit converti, pourquoi pas? Le mal peut être converti en bien. Si là où on sème le mal, moi je sème le bien. Et ce faisant, le bien que je sème engendrera la bénédiction.
Voilà, mon père, semez le bien, le bien, le bien et le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Voilà, merci mon père. Et bonjour mon père, je voulais avoir une explication sur l'Eucharistie. Pourquoi le chrétien ne prend pas le vin pendant la messe? Ils ne prennent que le corps. Comment me défendre face aux amis protestants et autres? C'est Joël à partir du diocèse de Bounia. Il y a beaucoup de auditeurs.
Merci beaucoup à Bounia. Bon, c'est qu'aujourd'hui ça marche. Ouais. Parce que s'il n'y a pas d'électricité, bon, notre émetteur de Bounia ne tourne pas. Je crois qu'aujourd'hui ça tourne à Bounia. Alors, voilà la réponse. D'abord, c'est une question théologique. C'est-à-dire que quand je prends le corps du Christ, cela n'exclut pas le sang. Si vous voyez, on dit voici le corps du Christ, voici le sang du Christ, c'est de façon illustrative pour montrer que voilà, il y a les deux espèces. Mais celui qui communie au corps du Christ communie aussi à son sang. Parce que le corps du Christ n'exclut pas son sang. Mais pourquoi on ne peut pas communier, comme on dit, sous les deux espèces? Mais c'est parce qu'il y a un problème pratique. Avec tout ce qu'on a, beaucoup de gens, vous êtes à Bounia, dans votre paroisse, il y avait combien de participants à la messe hier? Ce matin, combien? Est-ce que vous allez tous communier au corps, au sang du Christ? Il y a des implications d'ordre financier, il y a des implications d'ordre hygiénique aussi. Donc, ce sont des questions, en fait, pratiques. Pour des questions pratiques, voilà, on préfère qu'on communie au corps du Christ. Les prêtres, ceux qui sont les ministres qui sont à l'autel, peuvent communier sous les deux espèces. Mais vous avez remarqué que même pendant les temps de la pandémie, on ne communiait pas sous les deux espèces. C'est seulement les prêtres qui président, qui communiaient sous les deux espèces. Les prêtres qu'on célébrait, là où on célébrait encore, eh bien, ne communiaient pas au sang du Christ. Parce que là aussi, il y avait un problème de santé, un problème de sécurité.
Soit il y avait même deux calices.
Voilà, il y avait deux calices. Donc, mais là où il y a peu de gens pendant la messe, eh bien, les participants peuvent tous participer, peuvent tous communier sous les deux espèces.
Voilà, mon père va prendre encore une réaction de Joseph de Marie.
Jésus dit, le maître va chercher la seule brebis perdue et laisse les 90 autres. Les 90 autres. Mais dans d'autres... dans d'autres textes bibliques, mon père, il est dit clairement, abandonne les 90 autres. Mais il y a risque. Vous allez chercher une brebis et vous abandonnez ou vous laissez les 90 autres sans sécurité, sans quoi. Mais à votre retour, vous risquez de trouver les loups entrer dans l'enclos et les ravager. Quid de cette problématique? Merci beaucoup, mon père.
Père Roger.
Mais évidemment, il y a un verset biblique, une version dans les synoptiques qui parle de ça. Et abandonne les 99 autres. Il faut voir ce que cela veut dire exactement, c'est-à-dire comment devrait-on traduire cela. Mais même quand on dit abandonner, c'est-à-dire au sens de laisser. Laisser, parce que ce n'est pas abandonner dans un sens où on dirait négliger. Ça, il ne peut pas le faire, ce serait une imprudence notoire, mais c'est plutôt laisser. Hein, donc, c'est au sens de laisser d'autres, c'est-à-dire les 99, pour aller chercher celle qui est perdue. Donc, il laisse. Il laisse, mais il le garantit, n'est-ce pas, à ces brebis qui sont restées, la sécurité. Il leur garantit la sécurité, puis il s'en va. La question est très, très pertinente parce que il y a eu aussi dans l'histoire de l'exégèse de ces textes, hein, notamment chez les pères de l'Église, des réflexions qui voudraient en fait apaiser les esprits. Parce qu'on s'est posé la question de savoir comment va-t-il laisser 99 pour choisir une seule, aller chercher une seule. Alors il y a certains qui disaient que cette brebis était beaucoup plus grasse que d'autres. Il y en a qui disaient comme cela dans certains commentaires anciens. Même dans certains manuscrits, on a parfois tendance à ajouter quelque chose. Il est allé chercher la brebis perdue. Parfois, on précise qui était grasse. Donc, on veut montrer que cette brebis avait des qualités que d'autres n'avaient pas. Parce qu'on ne comprend pas comment il peut agir ainsi. Mais heureusement qu'aujourd'hui, ces interprétations ne sont plus... On n'accepte pas ça aujourd'hui. C'est-à-dire que la brebis perdue est comme toutes les brebis. Peut-être même qu'elle est malade, alors que d'autres sont en bonne santé. Mais le Seigneur s'occupe justement de ceux qui ont plus de difficultés. Lui-même, il dira, je suis venu pour les pécheurs et non pour les bien portants. Et donc, c'est une brebis qui est comme toutes les autres. Peut-être même, elle pourrait être malade, mais le Seigneur va les chercher parce qu'il n'y a aucune justification. On ne peut pas dire que c'est la brebis la plus grasse. Voilà pourquoi on va la chercher. C'est la brebis la plus robuste. Voilà pourquoi on va la chercher. On ne peut pas dire ça. Mais l'unique raison qui justifie ce comportement, c'est simplement l'amour du pasteur. Le pasteur est d'un cœur très, très, très généreux, un cœur attentif à ses brebis. Voilà pourquoi il va rechercher cette brebis perdue.
081-99-66-098 plus 243-81-99-66-098. N'hésitez pas de nous envoyer vos questions, préoccupations à ces numéros WhatsApp ou SMS normal. Nous prenons cette question. Bonjour mon père, bonjour Cédric, merci pour cette catéchèse. Je fus un grand fervent catholique, mais à un moment, le dégoût, les critiques, voire même le doute par rapport à l'Église, ce qui m'a poussé d'abandonner totalement et aller ailleurs. Ça fait déjà 4 ans. Je suis dans cette galère. Je demande votre orientation.
Bon, l'orientation, où est-ce qu'il est maintenant? Où est-ce qu'il prie maintenant?
Bon, certainement, il est soit dans une église de réveil protestante, c'est pas précis. Mais bon. Apparemment, il n'est plus dans l'église catholique. Et
oui,
souhaite rentrer.
Qu'il le fasse, c'est que sa conscience lui demande. Je le renvoie à sa conscience, tout simplement. Qu'il prie et que le Seigneur, mon frère, priez que le Seigneur vous illumine. Que le Seigneur vous éclaire. Et après la prière, prenez même 2 ou 3 jours de prière au minimum, hein, pour discerner, demandez au Seigneur, que dois-je faire? Et au terme de ce temps de réflexion, ayez le courage de faire ce que le Seigneur va vous inspirer.
Voilà, nous allons prendre cette question avant d'atterrir. Bonjour mon père, c'est Yoni Michael à Kisangani. Voici ma question. Depuis que Jésus a connu l'ascension au ciel, le monde a-t-il chuté ou élevé spirituellement?
Le monde a beaucoup évolué. Le monde a beaucoup évolué positivement. Voyez-vous? Et l'impact du christianisme dans l'humanité, c'est par exemple la déclaration des droits de l'homme au niveau des Nations Unies. La charte des Nations Unies sur les droits de l'homme, ça c'est chrétien. Ça vient, on sent que l'évangile a beaucoup influencé ceux qui ont écrit cela. Après, ces droits sont parfois plus ou moins respectés. Tantôt c'est vraiment respecté, tantôt pas du tout, tantôt plus ou moins. Mais ça montre déjà qu'il y a une évolution dans l'humanité. Dans l'Antiquité, tu ne peux pas circuler facilement. on peut te tuer à n'importe quel moment et puis bon, qui va te venger ou bien qui va aller plaider pour toi au tribunal. Donc, on vient de loin. Il y avait bien sûr ce qu'on appelait Pax Romana. À l'époque, ce qui a permis même à l'Évangile, à l'époque de Paul, de pouvoir atteindre les différentes parties de l'Asie et même de l'Europe, ou même Afrique du Nord, parce qu'il y avait Pax Romana. Mais ça ne suffisait pas. La vie humaine était exposée. Regardez ce qu'on a fait aux chrétiens dans l'Antiquité. Les persécutions, n'est-ce pas, dont les chrétiens étaient victimes. Donc, voyez-vous, donc on vient de loin. Aujourd'hui, il y a parfois des massacres, génocides, malheureusement, mais en tout cas, ça devient un scandale. Même si, bon, parfois, on voit que, bon, mais on aurait dû en parler, on aurait dû sanctionner. On ne sanctionne pas, mais ça reste un scandale dans les consciences des gens. Mais à l'époque, bon, même s'il y a génocide ou massacre, bon, ça ne voulait rien dire. Ça veut dire que le christianisme a apporté beaucoup à l'humanité, la culture, la civilisation de l'amour est en marche. Le chemin est encore long, mais elle est en marche. Et cette civilisation de l'amour est accompagnée des valeurs, comme la justice, la vérité, la dignité humaine, la non-violence, la paix et tant d'autres. Même si, bon, la paix, c'est toujours un problème. Voyez ce qui se passe dans l'est de notre pays, en Ukraine, en Iran. Et donc, ça montre qu'il y a encore des pas importants à faire par rapport à la paix, mais surtout par rapport au respect des droits de l'homme, au respect de la dignité humaine. Mais quand même, il y a un parcours assez intéressant qui a déjà été réalisé.
Merci beaucoup, mon père. Quoi retenir déjà pour cette première partie?
Le Sacré-Cœur de Jésus, comme je l'ai dit, le cœur est une allusion à la dimension spirituelle de l'être humain, comme l'âme aussi. L'âme aussi a une connotation spirituelle, mais aussi immortelle en même temps, mais le cœur a surtout une connotation spirituelle. C'est le siège de la volonté, l'intelligence, c'est la partie ou la dimension de l'être humain qui est caractérisée par des valeurs que nous prônons, des valeurs que nous portons. Donc, si quelqu'un agit en toute justice, il cherche la vérité, c'est-à-dire ça vient de son cœur. Ce n'est pas le cœur comme organe physiologique, mais le cœur comme dimension spirituelle de l'être humain, siège de l'intelligence, siège des valeurs qu'il peut prôner dans la société. Alors, le cœur de Jésus est un cœur plein d'amour. Voilà pourquoi ce cœur est sacré et que le sacré cœur de Jésus nous aide à être nous aussi des missionnaires, de la charité missionnaire, l'amour. Parce que le Sacré-Cœur de Jésus nous inspire la réparation, parce que nous l'avons offensé, nous l'avons blessé. Le Sacré-Cœur de Jésus nous inspire aussi ce qu'on appelle sequela Christ, c'est-à-dire imitation du Christ. Merci.
Merci beaucoup mon Père. Nous allons conclure avec vous par la prière.
Volontiers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Jésus, tu nous as donné l'occasion de célébrer, de fêter ton sacré cœur. Ton cœur est un cœur plein d'amour, un cœur humble, un cœur doux, comme tu l'as défini toi-même dans l'Évangile. Nous avons besoin de ces valeurs dans notre société, dans nos familles, dans nos vies. En célébrant cette fête de ton cœur plein d'amour, puissions-nous avoir la grâce de t'imiter et de promouvoir l'amour, la douceur, l'humilité, toutes les vertus qui sont contenues dans ton cœur. Sacré cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Bénis Seigneur les malades et les prisonniers, toutes les personnes qui se tournent vers toi en ce moment parce qu'ils n'ont que toi comme sauveur. Nous n'avons pas d'autre Dieu sinon toi seul Seigneur. Tu es souverain, tu es transcendant, tu es l'absolu, mais tu es aussi près de nous, spécialement de ceux qui souffrent. Bénis en ce moment ceux qui nous suivent aussi dans des prisons. Bénis ceux qui sont confrontés à tant de problèmes dans la vie. Que ton cœur plein d'amour leur apporte des grâces dont ils ont besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Si nous sommes arrivés chez vous, c'est grâce à vos dons. Veuillez continuer à soutenir Radio Maria et dont la Vierge Marie à nous aider.